Veux-tu braver?
Veux-tu braver tes amours et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fer. La force est dans les hommes. Oh, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang. Jésus, mon sauveur,
veux-tu marcher toujours pur?
Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans les sangs.
Oh, je suis fort,
je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort,
je suis fort,
fort, oui, plus qu'un vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour?
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus t'aimerai pour toujours. La force est dans les sangs.
Oh, je suis fort,
je suis fort,
fort,
oui, plus qu'un vainqueur par les sangs de Jésus.
Je suis fort,
je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur par les sangs.
Car ta bonté
vaut
mieux que la vie. Car ta bonté
vaut
mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Car ta bonté,
car ta bonté.
Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'aboirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. La volonté de Dieu est de célébrer avec nous la table dans son royaume et préparons-nous du jour au jour à célébrer cette table avec Dieu dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, nous allons prier. Mais avant de prier, nous allons lire d'abord la parole, le passage qui va éclairer notre méditation de ce matin. Il se trouve dans les livres des Chroniques, chapitre 7, du 11e verset jusqu'au 14e. Des Chroniques, chapitre 11 jusqu'à 14. On devrait lire jusqu'à 22, mais je vais m'arrêter au 14e. Je lis dans le nom du Seigneur. Des Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 14. Voici ce que la parole de Dieu dit. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: « J'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Parole du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ces bons moments que tu nous accordes afin d'écouter de ta part. Nous prions, Père, que ces moments soient bénis par toi, que tu puisses encore une fois nous parler, Seigneur. Père éternel, merci parce que tu vas le faire. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, bonjour encore une fois. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant vous en ce dimanche 29 juin. Nous sommes à la veille de la célébration de notre indépendance, mais aussi ce dimanche est tombé dans la circonstance où notre jeunesse a organisé sa semaine de la jeunesse, une semaine que nous sommes en train d'appeler exceptionnelle. Okay? Alors exceptionnelle pourquoi? J'aimerais quand même qu'on commence par là. Nous l'appelons exceptionnelle parce qu'il y a 4 ans, quand nous avons choisi ce thème pour la première fois, nous étions en train de réfléchir avec le comité des jeunes de cette paroisse et on était en train de se dire quel doit être le profil d'un jeune qui réellement fait la différence, pas seulement dans cette paroisse, mais aussi dans notre nation et partout où il peut se retrouver. Et un mot nous a été inspiré il y a 4 ans et ce mot-là, c'est exceptionnel. Pourquoi je dis que c'est inspiré? C'est parce que quand on lisait les Écritures, dans Daniel chapitre 6, verset 4, le verset courant, français courant, dit « Il, Daniel, surpassait les 2 autres et tous les satrapes par ses capacités exceptionnelles. Si bien que le roi avait l'intention de lui confier une responsabilité relative à l'empire tout entier. » Donc Daniel avait des capacités exceptionnelles. Et d'autres versions disent qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, un esprit supérieur. Si on lit les chapitres précédents, toujours dans Daniel chapitre 5, verset 11, Daniel est en train d'être recommandé devant le roi parce qu'il y avait une écriture sur les murs et personne ne pouvait savoir qu'est-ce que ça signifiait. Alors Daniel a été recommandé au roi et voici comment est-ce que Daniel a été décrit dans la recommandation qu'on faisait de lui. Daniel chapitre 5, verset 11 et 12, toujours version français courant. La Bible dit « Dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'Esprit des dieux saints. À l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareille à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'avait nommé chef des devins, magiciens, enchanteurs et astrologues. Il possède un esprit exceptionnel, du discernement, de l'intelligence et la capacité d'expliquer les rêves, de déchiffrer les énigmes, de résoudre les problèmes. Il possède une intelligence, un esprit exceptionnel, mais il a aussi la capacité de résoudre des problèmes. » En fait, la vision vraiment derrière ce thème, c'était ça. Nous voulons vraiment que chaque personne, pas seulement les jeunes, que chaque personne de cette paroisse soit défiée à être exceptionnelle pour la gloire de Dieu partout où il se retrouve. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit dans les milieux professionnels, nous voulons que comme Daniel dans son temps, les membres de cette paroisse et particulièrement les jeunes puissent être des personnes solutions aux problèmes les plus pressants de notre environnement. Et vous le savez tous que notre environnement a beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Nous voulons que les gens qui viennent de cette église, particulièrement aussi la jeunesse, se distinguent du courant de ce monde, même quand la majorité décide de se compromettre. C'est ça être une exception. Quand la Bible dit « ne vous conformez pas au siècle présent », ça veut dire « soyez une exception, soyez exceptionnel ». Nous voulons être exceptionnels dans nos poursuites, dans nos aspirations. Ne pas nous contenter d'être seulement bons, mais aspirer à toujours être meilleurs dans tout ce qu'il nous est demandé de faire. Et il y a un serviteur de Dieu qui a un jour dit que toutes les forces de la société nous conditionne à la conformité. Toutes les forces, les gens veulent qu'on soit comme eux. Si tu n'as pas qu'à tout vivre, on attend un jour et wapi. Nous sommes comme ça. Et le conformisme, quand on se conforme, est le chemin le plus rapide vers la médiocrité. Vers la médiocrité. Et donc, Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans la moyenne. Dieu nous a sauvés, il nous a mis à part pour que nous soyons exceptionnels. Pour que nous soyons une exception. Amen. Hein? Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement d'un thème qui dit « pour la guérison de la nation ». Parce que nous sommes vraiment dans ce contexte aussi où nous célébrons l'indépendance de notre pays. Et pendant que j'étais en train de préparer ce thème, j'étais en train de me dire, ça fait 65 ans, demain ça sera 65 ans qu'on a proclamé notre indépendance. Je me demandais, mais qu'est-ce qui constitue une nation? Qu'est-ce qui fait une nation réellement? Et j'ai essayé de faire des recherches. Et une des choses qui constitue une nation, la première chose, c'est l'identité collective. On parle d'une nation quand il y a un groupe de personnes qui ont une identité collective. Nous nous appelons des fils et des filles du Congo. Ça fait une identité collective. Et ce peuple doit s'identifier à cette identité collective. Une deuxième chose qui fait, qui fait une nation, en fait, c'est un même territoire. Ce peuple doit vivre sur un même territoire. Bon, je pense que pour nous, oui, on vit sur un même territoire. Est-ce qu'on a une identité collective? Bon, on va essayer un peu de s'interroger aussi. Une autre chose qui constitue une nation, c'est un gouvernement et la souveraineté. Un système de gouvernance qui exerce son autorité sans intervention extérieure. C'est ça être souverain, en fait. Okay? L'habileté de mettre en place des lois et de les faire respecter. C'est ça qui fait une nation. Une autre chose qui fait une nation, c'est une langue commune. C'est vrai que nous avons plusieurs langues, c'est une nation multilingue, mais il y a quand même certaines langues qui nous réunissent, n'est-ce pas? Notamment les Swahili, les Lingala, les Kiluba et les Kikongo. Et on a une langue officielle qui est le français, que tout le monde ici est en train de comprendre, n'est-ce pas? Donc il y a une langue commune, parce que la langue commune facilite la communication et l'unité. Une autre chose qui fait qu'on peut parler d'une nation, c'est l'économie. L'économie, ça veut dire un système économique qui fonctionne et répond aux besoins du peuple. Est-ce qu'on a un système économique qui fonctionne et répond aux besoins du peuple? Point d'interrogation. Une autre chose qui fait qu'on parle d'une nation, c'est un destin commun ou une vision future commune. Quand on regarde le peuple congolais, est-ce que nous avons tous une vision commune? Est-ce que nous allons tous dans la même direction? Est-ce que nous rêvons tous, nous avons ce désir d'avoir vraiment une prospérité commune en tant que nation? Ça, c'est une question qu'on doit se poser, parce que s'il n'y a pas cette vision commune, c'est que ce n'est pas vraiment une nation. Ça, ce sont les choses qui font qu'on peut parler d'une nation. Et 65 ans après l'indépendance, on se rend compte que il y a encore beaucoup de défis, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup de défis. Parce que quand on parle d'identité collective, on se rend compte d'abord que pour notre pays, nous sommes très caractérisés par ce qu'on appelle le régionalisme, n'est-ce pas? Batu ya Kule, va Est, va Ouest, va Fulani, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de tribalisme. On s'identifie plus à sa tribu qu'à la nation, n'est-ce pas? Il y a certaines tribus vraiment qui disent que, en tout cas, nos droits d'abord. Mais on ne voit pas vraiment le tout, l'ensemble, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des choses qui font un défi à cette identité collective que nous devons avoir si nous voulons être une nation. Une autre chose, c'est la gouvernance. La gouvernance, là aussi, n'en parlons même pas. Il est rare de trouver des dirigeants dans nos pays qui mettent en premier les intérêts de la nation. Très rare, c'est très rare. Mais on peut aussi voir que l'autorité de l'État peine à s'imposer. Parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi sont les premiers à la bafouer, n'est-ce pas? Il suffit seulement de voir comment on conduit sur la route. Si la voiture d'une autorité arrive, que les feux soient rouges, jaunes ou verts ou comment, il faut qu'ils passent. Pourtant, c'est eux qui ont mis ça là-bas, n'est-ce pas? Yeah. L'économie, le potentiel économique est là. On parle du potentiel économique du Congo, n'est-ce pas? Mais on s'est focalisé sur les mauvaises priorités. Parce qu'un des pièges que nous avons en tant que nation, c'est justement ces ressources. On s'en vante, on dit vraiment que nous avons beaucoup de ressources, alors que les ressources naturelles, celles, ne suffisent pas pour développer un pays. Elles ne suffisent pas. Il y a des nations qui n'ont pratiquement rien dans ce monde, mais qui sont plus avancés, de loin plus développés que nous. Je donne l'exemple du Singapour, je donne l'exemple de la Corée du Sud. Ce sont des nations qui n'ont pas d'or, qui n'ont pas de diamants, qui n'ont pas de coltan, mais ils sont tellement, tellement avancés. Qu'est-ce que ces nations ont fait? J'étais en train de lire un peu sur la Corée du Sud. Comment est-ce que la Corée du Sud n'a rien en termes de ressources naturelles, mais elle est tellement avancée? C'est parce que ces gens-là se sont focalisés sur les bonnes priorités. Elle a compensé son manque de ressources en se focalisant sur la technologie et l'innovation. Aujourd'hui, on parle de Samsung, n'est-ce pas? Ça, c'est une marque coréenne. On parle de LG, c'est une marque coréenne. Ils se sont focalisés sur la technologie. Ils ont une base industrielle solide. Ça veut dire qu'eux, ils viennent payer en gros et à moins cher les ressources brutes ici chez nous et ils les transforment à des appareils qu'ils vont nous revendre à 10 fois, 20 fois les prix des matières qu'ils ont prises ici. Parce qu'eux, ils ont vraiment investi dans l'industrie. Vous devez savoir une chose, c'est que ce téléphone ici, le prix du coltan qu'il y a dans ce téléphone, si on doit évaluer le prix de ce téléphone en fonction de ce qui est entré dedans, le coltan qu'on prend ici au Congo, les matières premières, ne constituent que moins de 5% du prix de ce téléphone. Moins de 5%. Moins de 5%. Parce que le reste, dans la proportion du prix du téléphone, le reste, c'est vraiment l'ingénierie. Comment est-ce qu'on a assemblé toutes ces composantes, les logiciels qui font fonctionner ces téléphones et après le marketing. L'ingénierie à lui seul, c'est 65% du prix du téléphone. Le marketing, c'est ce qui prend quelque chose comme 20%. Vous imaginez? Donc, on s'est focalisé sur les mauvaises priorités. On se vante des ressources naturelles, mais au fond, c'est la transformation, c'est l'ingénierie. C'est là qu'il y a même les vrais revenus, au fait. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que ces pays-là s'est développé parce qu'il a investi dans le capital humain. Aujourd'hui, notre éducation, le système éducatif est des plus affectés, vraiment. Les enseignants sont les personnes les plus négligées de la société. Alors qu'ailleurs, les enseignants sont les mieux payés parce qu'ils savent les secrets d'investir dans le capital humain. Un peuple éduqué est parmi les peuples les plus compétents du monde. Et après, la Corée du Sud, comme exemple, ils ont mis en place de bonnes infrastructures. Parce qu'on ne peut pas parler des nations si on ne sait pas se déplacer d'une ville à l'autre très facilement. Comprenez? Ce qui fait qu'on est dans cet isolationnisme, c'est aussi parce qu'on ne sait pas se déplacer vers d'autres endroits très facilement. Et ce sont des pays qui ont investi dans les infrastructures. Et donc, tout ça, ce sont vraiment des défis que nous sommes en train de voir. Je parle d'une vision commune. On manque aussi de vision commune. Plusieurs personnes ont vraiment, aucun leader, je dirais, très peu de leaders ont réussi à rassembler notre peuple derrière une vision commune. Bien au contraire, c'est généralement des classes politiques qu'on a et qui ne visent que leurs intérêts propres, qui ne visent qu'à s'enrichir. Bref, si on peut le dire, notre nation est malade, n'est-ce pas? Elle est malade, on est tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas un scoop. C'est une réalité que nous vivons tous au quotidien. Et comme au temps de Salomon, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est le Dieu des nations. J'ai été très tiqué par le passage parce que quand je lis dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 20, la Bible dit « Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné ». Là, c'est Dieu qui parle. Il parle du fait que ce pays n'est pas seulement les vôtres, c'est les miens, c'est moi qui vous l'ai donné. Parce que Dieu est souverain, c'est lui qui nous établit dans les nations auxquelles nous appartenons. Et c'est lui qui a la sagesse qu'il nous faut justement pour savoir comment est-ce que nous pouvons aider ces nations à prospérer, à se relever. Amen. Oui, cette nation n'est pas seulement la nôtre, c'est la nation qui appartient à Dieu. Et beaucoup de leaders oublient ça. Et après, on lit maintenant la prière du verset 14 qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » J'ai vu là-bas trois verbes qui se tournent vers Dieu. La Bible dit « Si mon peuple s'humilie, on s'humilie devant Dieu. » Si mon peuple prie, on prie Dieu, et cherche ma face, on se tourne vers Dieu, on cherche sa face, ça c'est la quête d'une solution divine. C'est comme ça comme j'ai mis ça ensemble. Donc, s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, c'est chercher, tout ça c'est la quête d'une solution divine. La deuxième partie, elle dit, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Ça, j'ai appelé ça notre responsabilité personnelle dans la guérison de la nation. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier. Il y a aussi un autre aspect où nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Parce que nous sommes parmi les nations qui prient le plus, n'est-ce pas? Nous sommes à 99,99% peut-être des chrétiens, n'est-ce pas? Mais est-ce que cette chrétienté s'est traduite par une société plus juste? Point d'interrogation. Est-ce que ça s'est traduit par une société plus prospère? Point d'interrogation. Et donc, il y a une responsabilité personnelle que nous n'avons pas encore pris très au sérieux. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principes, au fait. Il ne suffit pas seulement de prier et ne pas appliquer ses principes. Parce que si on n'applique pas ses principes, ça ne va pas marcher. Peu importe combien de temps on passe dans la prière, combien de temps on passe dans les jeûnes, si on n'applique pas les principes que Dieu nous a déjà donnés sur comment diriger une nation, sur comment être des citoyens responsables dans une nation, nos prières n'auront pas d'effet. Ça, je peux vous le garantir. D'ailleurs, un autre exemple, c'est qu'il y a des nations qui prospèrent et qui ne connaissent pas notre Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont appliqué les principes. Ils ont appliqué les principes. Oui, ils ont appliqué les principes. Et avant même que le peuple d'Israël ne devienne une nation, Dieu avait déjà donné des principes sur ce qui fait la force d'une nation. Dieu avait déjà parlé de gouvernance. Dieu avait déjà parlé de justice. Il avait déjà parlé du travail. Beaucoup de choses, des principes économiques que ces gens devaient appliquer pour devenir une nation. Alors, faute de temps, aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur deux aspects. Des aspects que je trouve qu'ils sont vraiment très problématiques dans notre nation, et qui sont même la base si on veut vraiment guérir et se rélever. Le premier aspect, c'est la gouvernance. C'est la gouvernance. La gouvernance. Vous savez, chez nous ici, on a un problème sérieux de leadership, n'est-ce pas? Un problème sérieux de leadership. Pourtant, Dieu, vous voyez que dans Deutéronome chapitre 17, 14 à 20, Dieu avait déjà donné aussi certains profils sur ce que devait être un gouvernant. On va lire ça rapidement. Deutéronome chapitre 17, verset 14. Il dit, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas et que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas les peuples en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. » Verset 17, « Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificataires. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles que cette loi et toutes ses ordonnances vont lui donner. » La gouvernance. Vous voyez qu'avant même qu'Israël ne s'établisse dans les pays promis, Dieu avait déjà donné un profil pour qu'est-ce qu'un bon gouvernant. Il les met en garde contre la cupidité. Il ne doit pas s'amasser beaucoup de chevaux, ni de l'or. Met en garde contre la cupidité. Et vous voyez que chez nous, quand on prend une certaine position de responsabilité, déjà on pense enrichissement. Un grand danger. On pense enrichissement. Il les met en garde contre le fait d'avoir plusieurs femmes, contre la polygamie. Parce que la vraie gouvernance commence dans sa famille, je pense. Il commence dans sa famille. On voit déjà une personne responsable dans la manière dont elle gère sa propre maison. Et quand on voit un peu les profils de beaucoup de nos gouvernants, Des fois, on s'interroge un peu même sur leur vie familiale, n'est-ce pas? J'espère que je n'aurai pas de problème. Continuons. La gouvernance. Donc, Dieu met en garde ces gouvernants-là. Mais il fait aussi quelque chose. Il dit qu'un bon gouvernant, c'est un gouvernant qui va garder sa loi. Parce qu'une gouvernance qui n'est pas redevable à Dieu est une gouvernance dangereuse. Très dangereuse. Vous savez, chez nous en Afrique, je pense, on a toujours... je ne sais pas si c'est une tradition ou quoi, mais chez nous, les chefs, c'est un absolu. D'ailleurs, on le voit même dans nos maisons. On dit toujours que « Muzazi yakwakena amakosa ». Donc, les parents ont toujours raison. Bon, je suis parent maintenant et je sais que je n'ai pas toujours raison. Et je pense que c'est pour ça peut-être que Dieu n'a pas voulu que nous naissions dans une famille monoparentale. Il fallait qu'on ait des parents qui peuvent quand même s'entredire. « On a la kini pale, kosa umtoto ». Une gouvernance qui n'est pas redevable est une gouvernance dangereuse. Et vous verrez toujours que parmi tous les rois qui ont marché, sur qui ont régné sur Israël, à chaque fois qu'ils tombaient ou qu'ils commençaient à descendre, c'est au moment où ils arrêtaient d'être redevables à Dieu. C'est au moment où ils arrêtaient d'être redevables à Dieu. Et donc, la Bible nous rappelle encore une fois qu'il est important que notre gouvernance soit redevable. Parce que le pouvoir vient avec des privilèges, n'est-ce pas? Le pouvoir vient avec des privilèges. Quand tu arrives quelque part, on les enlève, on vient te mettre là-bas. Donc, tous ces petits privilèges-là, ça fait qu'à un moment, les gouvernants peuvent voir que, en tout cas, je suis devenu... On développe un complexe de divinité. Je suis devenu la personne absolue. Alors qu'un penseur chrétien a un jour dit que les pouvoirs corrompent et les pouvoirs absolus corrompent absolument. Absolument. Donc, une gouvernance qui n'est pas redevable est une gouvernance très dangereuse. C'est là qu'on parle d'abus, c'est là qu'on voit les détournements. Pourquoi? Parce que personne ne va venir me poser des questions. Et donc, il est important que si on a une position de responsabilité, qu'on ait des Nathan dans nos vies. Nathan, comme la personne qui est venue vers David pour lui dire... Ce que tu as fait là n'est pas bon, même si tu es roi. Une gouvernance redevable. Un deuxième aspect que je vois que nous avons échoué complètement, c'est celui de la justice. On parle depuis longtemps de l'établissement d'un état de droit, n'est-ce pas? Un slogan. Proverbe chapitre 14, verset 34. Voici ce que ça dit. Proverbe chapitre 14, verset 34 dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » On ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas dire que cette nation va décoller tant que le secteur de la justice est encore corrompu, tant que le secteur de la justice ne marche pas. La justice élève une nation, mais le péché et la honte des peuples. Parce que la justice, vraiment, c'est une mosaïque, c'est un ensemble, c'est la combinaison de beaucoup de concepts, comme l'amour, la miséricorde, la charité. Ces gens-là qui viennent aider les pauvres, ils sont en train d'appliquer la justice. C'est ça. Ces gens-là qui, même un enseignant qui se donne pour enseigner vraiment avec tout son cœur les enfants pour qu'ils sortent de l'ignorance, il applique la justice. Parce que la justice, c'est vraiment un concept large, qui a tous ces aspects-là, la charité, la loi, la vérité, l'éthique, les services. La justice, c'est de faire ce qui doit être fait et c'est rendre à chacun ce qui lui revient. Ça veut dire qu'une personne, si elle n'a pas fait ce qu'elle doit faire, il faut quand même qu'il y ait une mesure punitive, n'est-ce pas? C'est ça, lui rendre ce qui lui revient. Et quand une personne vient de faire ce qui est bon, ce qu'il doit faire, alors on le recommande parce qu'il a été fidèle dans sa responsabilité. C'est ça même le concept de la justice. La justice décrit nos droits, ce qui nous revient et nos responsabilités, ce que nous devons à Dieu et aux autres. Et c'est pour ça que j'ai posé une question au début de ce sermon. Est-ce que le fait que nous sommes un peuple très chrétien, très religieux, nous professons Christ, est-ce que ça s'est traduit en une société plus juste? Parce que c'est justement ça que Dieu reprochait au peuple d'Israël à travers plusieurs des prophètes qui sont passés. Il les reprochait ça. Parce que la justice et l'équité font partie de la nature même de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est en bonne relation avec Dieu si cela ne se traduit pas par le fait que nous devenons des personnes plus justes. Au fait, Dieu nous a justifiés pour être justes. Amen. Amen. En fait, notre foi perd sa substance quand elle ne se traduit pas en acte de justice. Quand elle ne se traduit pas en acte de justice. J'aimerais qu'on puisse rapidement juste lire Amos chapitre 5, versets 22-24. C'est un autre prophète que Dieu a envoyé pour parler au peuple d'Israël. Et ce peuple-là, à cette époque, c'était vraiment un peuple très religieux. Si on pouvait un peu faire une parallèle avec chez nous ici, on verrait que c'est des églises à chaque 2 mètres, n'est-ce pas? Des chants, des cantiques, des gens qui sont en train de louer, ainsi de suite. Et c'est là que Dieu décide d'envoyer Amos pour qu'il leur donne un message particulier. Et quel est ce message? Amos chapitre 5, versets 22 et 24. Voici ce que la Bible dit. Quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes lyres. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ce sont des gens qui louaient, qui, n'est-ce pas, chantaient beaucoup. Je n'écoute pas les sons de tes lyres. Verset 24 dit, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dieu montre qu'il y a vraiment une corrélation entre la foi et la justice. Et la justice. Et donc, on ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas parler de guérison si on n'a pas encore commencé à être une nation ou des personnes plus justes. Et même avant que l'Israël ne s'établisse dans la terre promise, Dieu avait déjà donné encore une fois des principes pour le secteur de la justice. Pendant que je suis en train de conclure, j'aimerais quand même qu'on lise ça. Deutéronome chapitre 16, versets 18 à 22. Ça, c'était avant qu'Israël ne s'établisse sur la terre promise. La Bible nous dit, « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront les peuples avec justice. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents. » Présent, c'est la corruption. Hein? Et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Dieu met en garde cette future nation contre la corruption de la justice. Et tu suivras ponctuellement la justice afin que tu fasses quoi? Que tu vives et que tu possèdes les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si aujourd'hui nous sommes dans un chaos indestructible, c'est parce que d'une autre part, il y a plusieurs responsabilités qui nous incombent que nous ne sommes pas en train d'appliquer, notamment dans ces grands secteurs qui sont la gouvernance et la justice. Parce qu'il est impossible qu'une nation soit prospère tant que la justice y est bafouée, tant que la justice est subjective au lieu d'être objective. Vous savez, l'un des maux de nos pays, des nations africaines, j'étais dans un forum des jeunes, on était en train de réfléchir un peu, mais quelles sont les sources vraiment des maux de nos pays? Et l'un d'entre eux a dit, vous savez, chez nous, quand un dirigeant est de votre tribu ou ethnicité, on a toujours tendance à les défendre de toutes nos forces, même quand c'est le dirigeant le plus abusif et le plus corrompu. Mais on les défend quand même. Pourquoi? Parce que notre justice, au lieu d'être objective, elle est très subjective. Très subjective. Or, ce sont là les clés de la guérison et du relèvement de notre nation et de beaucoup d'autres nations. Que le Seigneur nous aide et qu'il bénisse sa parole. Amen.